Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous. Vous écoutez toujours Europe 1 et c'est la troisième partie de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma et surtout, j'espère, qui vous aiguille dans vos choix de films. Alors, pour décrypter l'actualité des sorties de mercredi, donc des films à voir ce week-end, j'ai à mes côtés Franck Vallière, journaliste cinéma pour Canal+. Bonjour, Franck.
Bonjour.
Rebonjour. Et Victor Bonnefoy, créateur du podcast Pardon le cinéma.
Bonjour.
Bonjour Victor. Alors avant de débattre des films en salle, un petit point quand même sur le box-office. Déjà, démarrage très puissant de Dune, l'adaptation du célèbre roman de Frank Herbert par Denis Villeneuve. Plus d'un million d'entrées quand même en une semaine. C'est beau, non, Victor? Vous êtes content?
Moi, je suis très très content que le cinéma de Villeneuve trouve son public, sachant qu'il enchaîne les films qui sont toujours d'une ampleur incroyable, que ce soit sa dernière adaptation, excusez-moi, de Blade Runner, ou encore là, prendre Dune à bras-le-corps. C'est assez impressionnant que ça marche auprès du public. Quel plaisir!
Et c'est le deuxième meilleur démarrage de l'année après Fast and Furious 9. À la deuxième place du podium, du box-office cette semaine, on retrouve Boîte Noire. On est content, on a défendu ce film, c'est un véritable coup de cœur et il a déjà séduit plus de 500 000 spectateurs. Donc il y a un très bon bouche à oreille. Et puis sur la troisième marche, il continue son ascension Bac Nord de Cédric Jimenez. Plus d'1 650 000 entrées en 5 semaines. Je pense qu'ils vont atteindre les 2 millions là assez rapidement, non?
Mais vont-ils battre Kaamelott? Là est tout le mystère.
Oh là 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 là. Long et parsemé d'embûches et ce chemin.
Oui, parfaitement.
On prend des paris ici dans Clap ou pas?
Moi, je ne parie rien avec vous, Laurie. On sait comment ça se finit.
Non, pas du tout. Je suis très bonne joueuse. Alors actuellement en salle, le bouleversant film de François Ozon. On en parlait la semaine dernière avec André Dussollier. Tout s'est bien passé. André Dussollier incarne un homme qui a survécu à un AVC, mais qui ne supporte pas de vivre en étant diminué, qui demande à sa fille, jouée par Sophie Marceau, de l'aider à mourir. Alors un sujet difficile, c'est vrai, mais un film qui oscille entre humour et drame extrêmement bien joué.
C'est un mauvais père.
Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami.
Alors aide-le. Comme une amie.
En France, c'est pas possible.
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
J'irai contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas.
Très bien.
Et vous alors, vous en avez pensé quoi?
C'est superbe. Dur, mais superbe.
C'est très touchant, c'est très doux. Et comme tout ce que fait Ozon, ça traite de sujets assez d'actualité. Et c'est fait avec beaucoup d'intimité et beaucoup d'émotion.
Je trouve que la mise en scène est absolument fluide. Et je trouve qu'il a été très fidèle au livre d'Emmanuel Bernheim. Mais en même temps, il y a la patte Ozon. Donc moi, j'ai bien aimé. Puis les acteurs jouent très bien.
L'autre sortie cette semaine, c'est le nouveau film de Tom McCarthy qui avait eu l'Oscar du meilleur film pour Spotlight. Là, il sort Stillwater. Alors, Stillwater, c'est l'histoire de Matt Damon, Bill Baker, un Américain qui débarque à Marseille pour innocenter sa fille accusée de meurtre. Il va rencontrer une comédienne, mère célibataire, incarnée par Camille Cotin, qui va l'aider dans sa quête de vérité et qui va lui servir de guide dans les rues de Marseille.
Alison était venue ici pour ses études et elle a rencontré cette fille, Lina. Un soir, elle a retrouvé Lina morte et elle a appelé la police. Le seul truc qui les intéressait, c'est qu'Alison couchait avec une arabe.
Je l'aimais.
Oui, je sais.
Tout le monde pense que je l'ai tué.
Je veux sortir ma gamine de tôle. Le reste, j'en ai rien à foutre.
Vous parlez vraiment comme un Américain, là, hein?
Tant mieux, j'en suis un.
Oui, et vous êtes aussi un étranger ici.
Alors Victor, je me tourne vers vous. Vous en avez pensé quoi de Stillwater?
Eh bien, Stillwater, c'est ce que j'appellerais un véritable film de Tom McCarthy, à savoir un film trois fois trop long et insipide. Donc, comme tous les films de Tom McCarthy, comme Spotlight
avant lui. Je m'attendais pas à ça.
Non, mais c'est bien, ça prouve qu'il a une véritable patte d'auteur, donc c'est absolument passionnant. Après, j'y trouve plein de choses très intéressantes, notamment le traitement de la ville de Marseille, le duo Matt Damon-Camille Cotin qui fonctionne à merveille.
Mais vous avez remarqué qu'à Marseille, tout le monde parle anglais?
Oui, c'est formidable, incroyable, la France bilingue, ça y est, on y est, c'est incroyable, le grand remplacement par les Anglais et les Américains. Mais il n'empêche que vraiment, je suis assez touché par le film, on s'ennuie jamais, soyons très honnêtes, on s'ennuie jamais. Le problème, c'est que, comme le dirait un ami à moi, c'est un peu un film qui sent le savon, quoi. C'est un film qui n'a pas de rugosité, c'est un film qui n'a pas vraiment de contraste à l'intérieur, qui, oui, reste divertissant du début à la fin, de là à créer quelque chose qui va nous rester en tête assez longtemps, pas particulièrement, surtout qu'il est quand même 2h20, ai-je 2h20 de mon temps à consacrer à un truc qui ressemble à moitié à un téléfilm de grande qualité, mais à un téléfilm quand même, je sais pas trop. Je vous encourage à aller le voir, je vous encourage à le découvrir parce que ça reste divertissant. De là à dire que ça restera dans notre palmarès de l'année, j'en suis pas vraiment certain.
Mais on peut consacrer 2h20 à Matt Damon et Camille Cotin quand même.
Mais moi je consacre 2h20 de ma vie à Matt Damon et Camille Cotin quand ils veulent.
Alors, on va écouter ce que vous en avez pensé, vous.
J'ai beaucoup aimé ce film. Tous les acteurs sont très bons et le film est assez complexe et montre une belle image de Marseille, toute la complexité de Marseille avec les paysages. Très bonne surprise.
C'est assez sensible, peut-être un peu long de temps en temps, mais
mais c'est un joli film psychologique.
Et puis un film qui fait beaucoup parler cette semaine, l'adaptation d'un célèbre manga, Le Sommet des Dieux, l'histoire d'un photographe japonais qui croit reconnaître un alpiniste qui pensait disparu depuis plusieurs années, qui détiendrait un appareil photo contenant une preuve qui pourrait changer l'histoire de l'alpinisme. Le Sommet des Dieux, c'est l'histoire d'une quête qui va vous emmener sur les pentes de l'Himalaya jusqu'au sommet, jusqu'à l'Everest.
Le sommet de l'Everest a été atteint en 1953, mais c'était pas la première tentative.
Je sais ce que vous voulez faire cet hiver. L'Everest, la face sud-ouest.
Tu rigoles ? Personne ne peut faire ça en hiver.
S'il vous plaît, laissez-moi grimper avec vous. Je ferai tout ce que vous me direz.
8 ans qu'il se prépare. Cette ascension, c'est tout pour lui.
Pourquoi tu fais ça ?
Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Il n'y a plus que ça qui compte.
Alors Franck Vallière, vous avez aimé, je crois ?
Oui, et pourtant j'y allais en moonwalk. C'est-à-dire que je m'attendais à m'ennuyer parce que je me suis dit, oh là, la verticalité de la montagne, les images, les plans larges, jamais l'animation ne pourra le restituer. Et en fait, c'est là le point fort du film, selon moi. C'est-à-dire qu'il y a des scènes d'exposition où on expose donc la problématique de ce photographe, sa quête, etc. Et à partir du moment où on est vraiment en montagne, c'est-à-dire que j'étais saisi, quoi. En fait, les plans de cinéma auraient nécessité tellement de technicité que c'était impossible de faire ces plans-là. Et il y a un vrai suspense qui naît du dessin et de l'appropriation de ce manga qui faisait à l'époque, je crois, 1500 pages sur plusieurs saisons. Et du coup, le petit, on a fait un truc extraordinaire. C'est absolument délicieux.
Victor ?
Et moi, je trouve ça assez passionnant et fascinant. Et puis surtout, il y a quelque chose d'intéressant dans Le Sommet des Dieux, c'est qu'à la base, c'est un manga de Jiro Taniguchi. Et Taniguchi, en fait, a plus été adapté en France qu'au Japon. Il y avait notamment eu une adaptation il y a quelques années, il y a 10 ans environ, avec Quartier Lointain. Et puis, il y avait eu aussi une adaptation en téléfilm par Nicolas Boukrieff il y a quelques temps. Et c'est incroyable de voir à quel point les Français se saisissent justement de la matière qu'a créée Taniguchi pour en faire ensuite des œuvres de cinéma. Et contrairement aux œuvres précédentes, qui étaient notamment Quartier Lointain, qui avait la volonté de franciser absolument l'œuvre de Taniguchi, là, on respecte le matériel japonais, on respecte les personnages qui sont en jeu et on fait une véritable ode à la montagne avec cette mise en scène qui est absolument flamboyante. Il y a des plans de montagne qui donnent un vertige absolument fou. Franck parlait de verticalité, mais justement, je trouve que l'animation a su retranscrire ça à un niveau qu'on avait rarement vu et qui nous donne des véritables coups de pression. En fait, le film est assez court et en 1h30, condenser tout ça, ça reste quand même une épreuve de force que je trouve assez formidable. Et donc, du coup, le film demande de nous frapper assez fort tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, jusqu'à nous créer des véritables traumas aux personnages principaux et s'amuser avec la mise en scène. Moi, je pense à une des scènes finales dont je dirais pas grand chose, mais qui s'amuse avec la couleur rouge à créer toute une ambiance de malaise et de détresse pour faire ressentir justement la détresse de ces personnes qui font de l'alpinisme et qui se perdent dans ces endroits-là. J'y connaissais absolument rien à l'alpinisme et j'ai
et
pas
particulièrement. Maintenant, vous voulez aller gravir l'Everest ?
Pas particulièrement, tellement c'est terrifiant, pas particulièrement. Par contre, de là à dire que Le Sommet des Dieux est une œuvre vertigineuse, pour utiliser une expression un peu pompeuse, oui, absolument, il faut voir Le Sommet des Dieux et je pense que ça prend une force et une puissance en salle qui mérite la salle, aller au cinéma.
Alors la puissance en salle, je crois que le public est conquis, on écoute vos avis.
J'ai trouvé ce film somptueux, ça crée une fascination, quelque chose vraiment qui touche au plus profond.
Un très chouette film, même si c'est un dessin animé, enfin, c'est des très belles images, c'est vrai que ça donne vraiment envie, et c'est vraiment un sujet passionnant, un milieu de passionnés, et c'est assez incroyable. Hein.
Le film a été très intéressant, surtout pour la réalisation, il y a un travail phénoménal là-dessus. Hein.
Et une autre sortie, on en parlait avec Laila Bekti, c'est Troisième Guerre, premier long métrage de Giovanni. Alors Anthony Bajon, Karim Leclou et Laila Bekti sont au casting donc, de ce film qui suit le quotidien des Sentinelles. Le quotidien plus particulièrement de Léo qui est un jeune soldat qui vient juste de terminer ses classes. Et pour sa première affectation, il écope d'une mission Sentinelle. Il doit donc arpenter les rues de la capitale mais sans rien avoir à faire.
Une rue, des passants, des fenêtres. Ce que tu vois, c'est des menaces potentielles. Alors tu te méfies.
Les gens ne se rendent pas compte. Juste un mec déterminé peut anéantir l'humanité en 2 secondes. Et y a qui pour l'arrêter ? Moi, je suis prêt.
Alors Victor, Troisième Guerre, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Je trouve ça plutôt intéressant. Mmh. Je trouve ça plutôt intéressant. Bon, déjà parce qu'il y a une force de casting qui est assez puissante. Que ce soit Anthony Bajon, Karim Leclou, Laila Bekti, des personnes qu'on a vues s'épanouir dans plein d'autres films et on est ravis de les voir justement ensemble. Ils ont une énergie commune qui fonctionne très bien. Mais surtout parce que le film prend un parti pris de filmer quelque chose qui est difficilement filmable, à savoir l'ennui. Qu'est-ce que l'attente ? Qu'est-ce que le fait d'être continuellement dans la recherche de quelque chose qui ne vient pas ? Là, ce qui est intéressant, c'est justement de traiter l'opération Sentinelle et de prendre le sujet à bras-le-corps et de traiter justement la paranoïa justement de ces militaires qu'on a abandonnés au milieu des rues de Paris en leur disant marchez, marchez, vous trouverez peut-être quelque chose. En tout cas, nous, on y trouve un grand film.
Un grand film alors ?
Oui, j'ai deux choses à ajouter. La mise en scène est un tout petit peu légère. On sent que c'est un premier film, et comme le film était à Venise en section horizontique, il découvre de nouveaux talents. Super. En revanche, la mise en scène est très, très à plat, très manichéenne, et je trouve un tout petit peu dommage parce que le film a des talents extraordinaires. Déjà de scénario, Beaumard qui a écrit
Les méchants avec Mouloud
s'empare de sujets purement contemporains et les traite d'une manière exquise, vraiment, un peu déviante, et en tout cas qui pose de vraies questions. On s'interroge véritablement en voyant ce film sur le poids de l'uniforme. On oublie trop souvent qu'il y a sans doute chez les CRS, les forces de l'ordre, les soldats, aussi des gilets jaunes, aussi des antivax, qui font pourtant passer leur fonction avant leur propre point de vue. Et le film, à un moment que je ne dévoilerai pas, mais on pourrait se croire dans Alien, c'est-à-dire qu'il tire vers le genre au travers d'une manifestation dans une espèce de brume et amène le film d'une réalité extrêmement pragmatique vers l'onirisme violent d'un film de genre. C'est très réussi pour ça.
Ouais, mais c'est dommage de parler justement de la mise en scène en la trouvant réduite, parce que justement je trouve que c'est dans ces scènes-là, et notamment dans la scène de manifestation, que le film explose en termes de mise en scène, dans des volontés esthétisantes. Il y a notamment le personnage de Camille Leclou qui se retrouve couvert de peinture jaune, justement, et justement le réalisateur cherche à créer de la texture dans l'image, cherche à justement créer de la mise en scène, créer de l'esthétique.
Et justement, je me suis même demandé si c'était pas fait sciemment, c'est-à-dire pour rappeler que seule la caméra extérieure, le troisième œil, est en fait sage, calme et posée dans un monde qui est un chaos infernal.
Et vous, alors, qu'en avez-vous pensé de cette mise en scène ?
Au début, ça m'a un petit peu irritée, mais c'est un film très touchant parce que ça montre la fracture actuelle de notre société.
J'ai vraiment trouvé que c'était un film âpre, violent, mais d'une force incroyable et qui pose beaucoup de questions quant à la place de ces sentinelles et de l'ambiguïté de leur travail, qui fait que, en fait, ils sont là pour surveiller, mais ils ne peuvent pas intervenir quand ils voient un acte de violence, et c'est très dur.
Bah, c'est assez pessimiste. La fin, vraiment, elle est hyper intense, c'est hyper court, c'est hyper dense d'un coup, mais plutôt bien aimé.
Et puis juste un mot dans les salles de documentaires qui étaient présentées au dernier Festival de Cannes, réalisé par Flore Vasseur, coproduit par l'actrice engagée Marion Cotillard, Big Guns and Us, film qui suit le récit de 7 jeunes engagés à travers le globe. Et alors Marion Cotillard résume tout, elle dit ce sont bien plus que des héros de cinéma.